Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition possible, avancée sur le détroit d'Ormuz, l'Iran annonce des discussions avec Oman sur sa gestion et le partage des revenus liés à la navigation. En Syrie, les puissantes forces démocratiques syriennes à dominante kurde annoncent leur dissolution et leur intégration dans l'armée nationale. Violence sexuelle à l'école, 10 millions d'élèves de la maternelle au lycée vont être interrogés sur ce qu'ils ont pu subir. Pour la ministre Aurore Berger, il faut créer les conditions permettant aux enfants de s'exprimer. Nous l'entendrons dans cette édition. Bonjour. À Téhéran, les ministres iraniens et omanais des affaires étrangères ont discuté d'un accord cadre pour ouvrir un couloir temporaire de navigation dans le détroit d'Ormuz et engager son déminage. Une première étape vers une reprise du trafic maritime, mais pas encore vers une réouverture complète du passage stratégique. L'Iran la conditionne toujours à la fin de la guerre et à la levée du blocus américain. En parallèle, Washington accentue sa pression sur l'économie iranienne avec de nouvelles sanctions. Les précisions d'Inès Gilles.
Oui, le ministre omanais des Affaires étrangères, Bader Al-Busaidi, a dit espérer des modalités pratiques afin de rétablir une navigation sûre dans le détroit d'Ormuz. Les discussions entre l'Iran et Oman semblent donc constructives. Mercredi, les gardiens de la révolution iranien ont annoncé que certains accords ont été conclus concernant la part de chaque pays dans les eaux du détroit et la part de l'Iran et d'Oman, ses revenus, alors même que Washington s'oppose catégoriquement à l'imposition de droits. Selon plusieurs médias, le dispositif de passage envisagé prévoit que les navires entrant dans le Golfe passent par les eaux iraniennes, tandis que ceux qui sortent emprunteraient les eaux omanaises, Téhéran pouvant conserver un droit de regard. Néanmoins, la République islamique exige, vous l'avez dit Nadia, des concessions de Washington, un arrêt de la guerre sur tous fronts et une levée du blocus américain sur les ports iraniens avant d'envisager une quelconque réouverture, comme l'a répété le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Ghari Babadi. Les demandes qui semblent pour l'heure rester sans réponse à Washington, les États-Unis continuent de faire pression sur la République islamique menacée d'asphyxie par Washington. Le gouvernement américain avait affirmé lundi sa volonté de couper toutes les ressources économiques de l'Iran et adressé un avertissement ferme au pays qui continuerait à soutenir Téhéran. Alors si le président iranien a récemment reconnu que son pays faisait face à de nombreuses difficultés économiques après des décennies de sanctions américaines et internationales, il a prévenu aujourd'hui que les États-Unis n'obtiendraient rien avec leurs nouvelles pressions économiques.
Merci Inès pour ces précisions. Et pendant ce temps, Donald Trump relance les sanctions sur l'état de santé du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, invisible en public depuis fin février. Le président américain affirme le croire très sérieusement blessé, mais ne pense pas qu'il soit mort. Malgré les pressions et condamnations internationales, Benjamin Netanyahou promet de poursuivre la colonisation en Cisjordanie occupée. Devant des maires de colonies réunies mardi soir à Jérusalem, le premier ministre israélien a revendiqué la création ou la légalisation de plus d'une centaine de communautés et assuré que d'autres suivraient. Une déclaration qui intervient en pleine campagne à 2 mois des élections législatives du 27 octobre. Gaza pourrait approcher d'un point de non-retour. Ce sont les propos de Nikolaï Mladenov, représentant du Conseil de paix, qui alerte sur les conséquences d'un échec du plan actuellement dans l'impasse. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il prévient qu'une nouvelle escalade généralisée pourrait compromettre toute perspective de reconstruction. Nouveau rapprochement entre Damas et Moscou. Ahmad al-Shara et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone pour renforcer les relations et la coordination entre les deux pays. Un échange qui fait suite à l'accord conclu sur l'avenir des deux bases militaires russes en Syrie, appelées à devenir des centres conjoints de formation. Et ce rapprochement intervient alors que Damas franchit une étape majeure dans sa volonté de réunifier le pays. Après des mois de négociations, les forces démocratiques démocratique syrienne annoncent leur dissolution et leur intégration dans l'armée nationale. Un tournant historique pour cette force à dominante kurde qui fut l'un des principaux acteurs de la lutte contre le groupe État islamique. Mais derrière l'annonce reste désormais la question de sa mise en œuvre sur le terrain. Comment intégrer les forces kurdes à l'armée syrienne et cette dissolution peut-elle réellement se faire sans heurts? L'analyse d'Arthur Kenney, docteur en sciences politiques rattaché à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et spécialiste de la Syrie.
Le gouvernement syrien, en janvier 2026, quand il lance les opérations contre le nord-est, fait tout pour éviter de nouveaux massacres. Donc, sitôt en fait l'opération commençait, elle dure quelques jours, surtout une insurrection locale des populations arabes n'en pouvait plus du contrôle kurde. Et derrière, Damas fait tout pour stopper les opérations au bout de quelques jours et de repasser au politique. Et le politique, c'est donc les accords de janvier 2026 et ensuite des négociations pour appliquer ces accords. En revanche, derrière ça, les Kurdes vont jouer la montre jusqu'à aujourd'hui en espérant que Damas soit plus affaibli et qu'en fait, elle puisse être en rapport de force à nouveau pour négocier une forme d'autonomie des zones kurdes en termes de forces de sécurité locales, d'autres institutions, notamment de communes au niveau local, et également sur l'économie, avoir leurs entreprises kurdes contrôler encore une partie du pétrole et des ressources locales. Quelle va être la réalité de cette dissolution sur le terrain? Tout ça est encore en cours de négociation. Et quelque part, une forme de rapport de force continue.
Arthur Kenney, le chef kurde syrien Mazloum Abdi, quand il a annoncé la dissolution des forces démocratiques syriennes, il a tenu à rappeler l'importance de l'usage de la langue kurde. Est-ce que le combat maintenant pour les Kurdes syriens, il se trouve là, sur le plan culturel?
Oui, tout à fait. Donc les leaderships kurdes parviendront à conserver une forme de contrôle sécuritaire sur les zones kurdes. Ils ont une masse de combattants encore disponible qui leur permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation des droits des Kurdes sur place dans les enclaves kurdes. Après, sur les questions politiques et culturelles sont extrêmement importantes. Donc, pour les questions politiques, c'est le même problème se pose à eux que pour le reste des Syriens. C'est quel va être le rôle véritable du Parlement, l'indépendance du système judiciaire et la liberté liberté aussi économique, qui sont quand même clés. Savoir si on va vers un marché monopolisé par les nouvelles autorités ou une compétition plus ou moins libre dans le pays. Et après, sur le plan culturel, vous avez raison de souligner l'importance de l'éducation et de l'éducation en langue kurde.
Arthur Kenney sera l'invité d'Inès Gilles dans Grand Angle demain. La visite à Paris de Mohamed Ben Salman n'a pas seulement consacré le renforcement des liens économiques entre la France et l'Arabie Saoudite. Elle a aussi remis en lumière un autre axe fort de ce partenariat, la coopération culturelle à Al-Hula, notamment un projet emblématique de la stratégie saoudienne de diversification par le tourisme. L'expertise française occupe une place de premier plan. Pourquoi Riyad mise-t-il autant sur le savoir-faire français? Éclairage de David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Dans l'ADN français, on sait que de toute façon, il y a une diplomatie culturelle qui est très ancienne. Hein. C'est pas une nouveauté, mais elle prend un relief particulier dans ce cas-là, notamment avec Al-Hula, puisqu'il y a un grand projet effectivement de développement. C'est un peu la Petra, on va dire, saoudienne, dans le nord-ouest du pays. Et dans ce cadre-là, il y a une expertise française, une plus-value française. On l'a vu avec le Louvre, Abu Dhabi, etc. Mais on va dire qu'il y a une compétence française qui est effectivement jugée utile dans le projet Vision 2030, justement, parce que Mohamed Ben Salman veut faire du secteur du tourisme culturel. Et j'insiste là-dessus parce que jusqu'à présent, le tourisme était essentiellement un tourisme religieux lié aux villes saintes. Or, Mohamed Ben Salman veut arriver à plusieurs dizaines de millions de touristes justement non religieux justement, et donc ça passe par le développement d'un certain nombre de sites pour la valorisation, y compris de sites pré-islamiques, en l'occurrence c'est le cas, et là on retrouve l'expertise française. D'ailleurs il y a l'architecte Jean Nouvel hein, qui est partie prenante. Il y a un grand projet de développement de formation aussi des personnels, parce que le tourisme c'est aussi des compétences le produit d'une formation et donc là il y a effectivement, la France a un positionnement très particulier parce que on a une crédibilité qui n'est plus à prouver, et ça explique évidemment, et puis il y a une culture, une tradition archéologique française aussi hein, bien sûr, et donc c'est pas un hasard si la France se retrouve au premier rang pour ce type de projet.
David Rigolet-Rose, invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle, ce soir après le flash de 18h. Le bilan s'alourdit brutalement au Népal. Au moins 95 personnes ont péri dans une crue dévastatrice près de la frontière avec le Tibet. 28 policiers sont portés disparus et les autorités cherchent également à localiser 384 touristes, dont 291 étrangers signalés disparus dans les zones touchées. Nouveau drame sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. Au moins 3 corps en état de décomposition avancée ont été repérés au large de la Tunisie. Cette année, au moins 914 migrants sont déjà morts ou portés disparus en Méditerranée centrale, selon l'OIM. 9 personnes ont été tuées dans une frappe ukrainienne contre un bus dans la région de Lugansk, occupée par la Russie. Selon les autorités installées par Moscou, 15 personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'attaque. L'actualité en France. À 8 mois de la présidentielle, le MEDEF entre dans le débat. Son président Patrick Martin réclame un programme présidentiel de liberté. À l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France, il s'en est vivement pris au prophète de malheur, a-t-il dit, qui, selon lui, prospère sur les peurs et les fractures du pays. À Mayotte, le gouvernement durcit sa stratégie contre l'immigration clandestine. Sébastien Lecornu veut désormais conditionner une partie de l'aide au développement accordée aux Comores et à plusieurs pays africains à leur coopération dans la lutte contre les passeurs et la reprise de leurs ressortissants en situation irrégulière. À Paris, 58 migrants ont été découverts dans la nuit à l'intérieur d'un poids lourd sans chauffeur dans le 18e arrondissement. Femmes, enfants et demandeurs d'asile ont été laissés libres, tandis que 26 personnes sans titre de séjour ont été prises en charge en vue d'une retenue administrative. Dès l'enfance, libérer la parole pour mieux repérer les violences sexuelles, c'est le dispositif que veut renforcer le gouvernement en ajoutant des questions sur les violences sexistes et sexuelles au questionnaire annuel consacré au harcèlement scolaire. 10 millions d'élèves de la maternelle au lycée seront concernés avec un questionnaire adapté à chaque âge. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffrey, s'attend à des résultats potentiellement sismiques, alors qu'en France, un enfant sur 10 est victime de violences sexuelle. Pour Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'enjeu est de créer les conditions permettant aux enfants de signaler ce qu'ils subissent, même lorsqu'ils sont très jeunes. Elle était interrogée ce matin sur France Info.
Et dès la petite section, moi aussi je suis mère d'une petite fille qui a 3 ans et demi, dès le plus jeune âge on peut expliquer, on peut dire des choses à nos enfants, de manière à garantir que si jamais il leur arrivait le pire, ou si jamais ils étaient témoins aussi, ils puissent se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment légitimes et libres à révéler. On peut dessiner, on peut expliquer, on peut ensuite écrire, on peut ensuite cocher des cases. Il y a mille et une manières évidemment de le faire et on adapte, on n'a pas la même maturité, la même capacité à 3 ans et demi et à 12 ans, sauf que justement les prédateurs sexuels, ceux qui imposent l'inceste aux enfants, abusent de la vulnérabilité de ces enfants, de leur fragilité et du fait que oui, il y a des âges selon lesquels ils ont moins accès et la capacité de dire, de révéler parce qu'ils ont moins accès à la parole.
Un mot de sport pour finir, du football et ce transfert historique pour Ayoub Bouhaddi. L'international marocain de 18 ans quitte Lille pour Manchester City contre au moins 100 millions d'euros et s'engage jusqu'en 2031. Une opération record. Jamais un club de Ligue 1 n'avait vendu aussi cher un joueur à une formation étrangère. C'est la fin de cette édition. Merci à Anis pour la mise en onde. Prochaine édition en langue arabe à 17h30. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.